France Inter.
Le journal. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Passage de témoin à Athènes, la flamme olympique des mains de la Grèce à la France. La cérémonie a lieu en ce moment. Nous sommes sur place. Que diront les agences de notation de la dette française? Réponse dans la soirée, mais on peut déjà vous dire quelles en sera les conséquences. L'actualité, c'est encore 3-4 choléra autochtones identifiés à Mayotte. Le chef de la diplomatie américaine est en Chine pour la deuxième fois en un an. Et puis nous serons au printemps de Bourges pour écouter Mathias Malzieu, chanteur de Dionysos. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, une question. Qui a déménagé et pour aller où depuis le Covid? La Fondation Jean Jaurès vient de publier une note qui montre, carte à l'appui, que la course à la mer s'est poursuivie ainsi que l'étalement urbain. La tendance était déjà largement amorcée. Elle s'est poursuivie à la faveur des dessertes ferroviaires et du télétravail. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont déménagé depuis la pandémie, n'hésitez pas à nous appeler. Même chose si vous avez dû y renoncer et si vous rêvez toujours de changer de vie. 01 45 24 7000.
France Inter.
La Grèce a donc passé le relais. La flamme olympique est désormais française. 10 jours après son départ du site antique grec d'Olympie, elle est arrivée à Athènes aujourd'hui dans le stade panathénaïque mythique, celui qui a accueilli les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Bonsoir Jérôme Val, c'est là que vous vous trouvez.
Bonsoir Hélène. Oui, exactement, dans ce stade qui est en train de se vider parce que la cérémonie de passation est terminée. Et effectivement, depuis 25 minutes maintenant, la France a récupéré cette flamme olympique après cette cérémonie qui a respecté à la lettre, on va dire, la longue tradition olympique avec des danses, avec le défilé aussi des grandes prêtresses, avec les derniers relayeurs qui sont entrés dans ce stade. Et donc, le passage de témoin entre Tsipras Kapralos, qui est le président du comité olympique grec, et Tony Estanguet qui a récupéré cette flamme avec une torche, et tout de suite après on a allumé une petite lanterne qui va maintenir cette flamme originelle. Cette petite lanterne va prendre demain la direction du Pirée, du port du Pirée, pour embarquer sur le Bélème pour une longue traversée de 12 jours à travers la Méditerranée jusqu'à Marseille.
Et la petite surprise qu'on n'attendait pas, c'est que le comité olympique a révélé le nom du premier relayeur sur le territoire français à la descente du Bélème. Le 8 mai prochain, ce sera Florent Manaudou, Jérôme.
Oui, effectivement, surprise du chef. On pensait que le nom de ce premier relayeur allait être gardé secret vraiment jusqu'au dernier moment. Oui. Eh bien non, effectivement, Tony Estanguet a annoncé que ce serait Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique. Et puis, quel nom aussi, puisque Laure Manaudou était, il y a une dizaine de jours, la première relayeuse française, la sœur aînée de Florent Manaudou. Donc vraiment, les Manaudou à l'honneur. Manaudou, qui est une figure aussi du sport marseillais et du sport français, tout à fait logique. Donc de le voir dans le 8 mai maintenant descendre du Bélème avec la torche sur le sol français pour un long périple de la flamme.
Jérôme Val en direct de Grèce. Quelques 150 000 personnes sont attendues à Marseille le 8 mai prochain pour accueillir la flamme sur le vieux port, et le dispositif de sécurité est conséquent. Près de 6 000 policiers et gendarmes mobilisés, des unités d'élite anti-drones ainsi que des moyens sous-marins et nautiques.
La décision est attendue, mais faut-il la craindre?
Les agences de notation Moody's and Fitch diront ce soir si elles dégradent ou non la note de la dette souveraine de la France. Le gouvernement s'y attend, lui qui vient de relever ses prévisions de déficit pour 2024. La dette française est désormais 22 points de PIB au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais le gouvernement minimise les conséquences d'une éventuelle dégradation. Bonsoir Agnès Soubiran.
Ah, bonsoir.
Pour bien comprendre avec vous, à qui appartient la dette française d'abord?
Alors, pour schématiser, un quart de la dette française est détenue par la Banque de France, un autre petit quart par des résidents français, cela peut être des compagnies d'assurance ou des établissements de crédit, ce qui veut donc dire qu'un peu moins de la moitié de la dette française est détenue par des acteurs français, et donc un peu plus de la moitié par des acteurs étrangers, un quart par des résidents de la zone euro et un dernier quart par des résidents dans le reste de l'Europe, en Amérique et en Asie. On retrouve ainsi des titres de la dette française dans des portefeuilles de fonds de pension, de banques centrales, de banques de crédit, dans des produits d'épargne à long terme, des assurances vie et des obligations. Mais tout cela est très volatile car ce sont plus de 10 milliards d'euros de titres de la dette française qui sont échangés chaque jour sur les marchés.
Et est-ce qu'ils se détourneraient de la dette française en cas de dégradation?
Alors non, si la dette française attire les investisseurs étrangers, c'est bien un signe de confiance des marchés internationaux. Les problèmes viendront lorsque les créanciers se mettront à avoir peur de ne plus être remboursés. ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et même si la note de la France est ce soir dégradée, la crédibilité de la France ne sera pas remise en cause à court terme, estime l'OFCE. Et d'ailleurs, on n'a pas observé ces derniers jours de remous particuliers sur les marchés, alors qu'une dégradation est bien possible ce soir.
Et après, ce soir restera une troisième agence à se prononcer, Standard & Poor's. Ce sera le 31 mai prochain. Ce n'est pas une question d'émotion, mais d'affaires. Le PDG de Total Energy pourrait bien déserter la Bourse de Paris au profit de Wall Street. C'est ce que dit Patrick Pouyanné à l'agence Bloomberg aujourd'hui, parce que les actionnaires américains achètent plus que les Européens et parce que les États-Unis sont moins critiques sur la stratégie du groupe qui finance une partie de sa transition bas carbone en continuant d'investir dans les énergies fossiles. Les magasins Monoprix mobilisés aujourd'hui un peu partout en France, à Bordeaux, Lyon, Arras, en région parisienne aussi beaucoup, eux qui ont échappé à l'opération détricotage du groupe Casino, ne sont pas rassurés pour autant face à un sous-effectif chronique, des conditions de travail dégradées et parce qu'on vient de leur confirmer qu'ils n'auront droit à aucune prime d'intéressement pour 2023. C'est une première depuis de nombreuses années. Appel à la grève et au débrayage donc de la CFDT et de la CGT. Thomas Bonnet devant le magasin de Nation dans le 20e arrondissement de Paris. Plus de la moitié des salariés y étaient en grève.
Sifflée en bouche et pancarte à la main, Soukaina est en colère. Elle se dit bousillée par son travail.
Je portais des charges de 400 kilos. Maintenant, je suis à mi-temps thérapeutique avec des problèmes de dos.
En 33 ans d'entreprise, la chargée de rayon a vu la gestion des équipes changer du tout au tout.
C'est de pire en pire. Je me sens pas bien. Avant, les chefs qui étaient là, ils étaient beaucoup plus humains. Maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas de cœur.
Vous savez pourquoi on est là ?
Oui !
Sylvain est caissière. Elle craint de voir le groupe Casino éponger ses dettes grâce aux résultats de Monoprix.
Casino nous considère comme leur vache à lait. On est là que pour éponger leurs dettes. J'ai l'impression qu'on n'existe pas. On est là que pour travailler, éponger.
Alain de Samas, représentant du personnel à la CGT, partage le même constat.
Ça nous a été posé. Estimez-vous heureux qu'il y ait un repreneur. Mais à quel prix ?
Celui de la prime d'intéressement, de la hausse des salaires et même du gel des embauches, selon le syndicaliste.
On demande aux salariés d'aller faire la crèmerie, les postes vacants, charcuterie. En fait, on devient des pions.
Contacté sur le non-versement de la prime d'intéressement, la direction de Monoprix explique ne faire qu'appliquer la loi.
Un reportage Thomas Bonnet. Un triste record. Le cap du million d'interventions pour impayés a été franchi sur les factures d'énergie et plus d'un quart a donné lieu à des coupures. Ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie et il n'étonne pas la Fondation Abbé Pierre et le directeur de ses études, Manuel Domergue, au téléphone de Robin Schmitt.
C'est pas du tout une surprise, on s'attendait à des chiffres extrêmement négatifs. Il y avait déjà une augmentation depuis 2020 et on battait des records chaque année depuis parce que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté et pendant ce temps-là, en 2021, on a eu 500 000 pauvres de plus par rapport à 2020. Les gens ont du mal à payer leur loyer, à payer leurs factures d'alimentation et donc d'énergie. Il y a quand même quelque chose à nuancer, c'est que il y a plus de réduction de puissance, mais un peu moins de coupure d'électricité parce que EDF, à la demande de la Fondation Abbé Pierre, a arrêté de couper ses clients. Donc nous, c'est ça notre proposition, mais on veut l'inscrire dans la loi parce que c'est pas normal que ça repose sur le volontarisme ou pas de votre fournisseur d'électricité, les clients de Total ou de Engie. Il n'y a pas de raison qu'eux soient coupés alors que les clients d'EDF ne le sont pas. Donc c'est une demande qu'on a auprès du gouvernement de longue date. La réduction de puissance, ça limite quand même la dureté de la sanction avec la capacité à avoir un frigo, de l'électricité, voilà, des choses de base.
Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre avec Robin Schmitt.
En plein débat parlementaire sur la fin de vie, Emmanuel Macron face à la Convention citoyenne.
Celle qui lui avait fait des propositions il y a un an, qui s'est prononcée pour une aide active à mourir. Un an après, dernière session aujourd'hui devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Maxence Lambrecht, vous y êtes, le chef de l'État est venu leur dire qu'il avait tenu sa promesse.
Oui, tourner définitivement la page de la Convention climat montrait que cette fois, tous ces échanges, ces 9 sessions de travail à 184 ont porté du fruit, qu'un texte de loi est bien là et en grande partie fidèle au rapport final. L'histoire n'est donc pas terminée.
Une troisième convention sera bien lancée prochainement, à vocation d'aboutir d'ici la fin du quinquennat,
que nous établirons en lien avec le CESE le thème dans les prochains mois et qu'elle sera lancée avant la fin de l'année.
Les idées ne manqueront sans doute pas. Le président du CESE en a déjà d'ailleurs en tête. Emmanuel Macron trouve que sur la fin de vie, cette convention citoyenne est un facteur d'apaisement pour la société.
Ça permet de sortir, ce qui est dans notre démocratie parfois un problème, d'un débat qui est réservé aux experts ou qui ensuite va passer dans un débat parlementaire mais qui est tout de suite politique. Là, c'est un débat citoyen éclairé et cette prédécision, c'est une étape qui permet de créer du consensus et qui permet à coup sûr d'éclairer et de teinter ensuite la décision et le vote.
Le chef de l'État précise une nouvelle fois que le texte qu'il propose va maintenant évoluer au gré des débats parlementaires au fil des mois. Il l'avait annoncé dès le départ et répond désormais aux questions des citoyens.
Maxence Lambrec, une étude de Santé publique France dit l'efficacité du traitement Beyfortus aujourd'hui contre les formes graves de la bronchiolite chez les bébés. Un quart des hospitalisations a été évité depuis l'automne dernier. 5800 hospitalisations précisément. Les autorités sanitaires annonce par ailleurs une vaccination obligatoire contre la méningite élargie à partir du début de l'année prochaine. Un seul vaccin ciblera désormais les méningocoques A, B, W et Y qui se développent. Tandis qu'à Mayotte, c'est le choléra qui inquiète. Trois premiers cas autochtones viennent d'être identifiés et l'Agence régionale de santé prend la situation très au sérieux, Julien Penaud.
20 médecins et infirmiers arriveront demain en renfort à Mayotte pour juguler au plus vite la maladie dans un département qui souffre d'un manque criant d'eau potable, d'habitations insalubres et une forte promiscuité, ce qui risque de faciliter la propagation de ces cas de choléra. Des contaminations dont l'origine vient d'un patient qui ne s'est visiblement pas signalé à l'Agence régionale de santé, son directeur Olivier Brahic.
En synthèse, il n'y a pas d'épidémie de choléra à Mayotte. On a un signal dans une zone localisée où il y a un début de circulation de la bactérie. Et donc, nous, les autorités sanitaires, on est là pour étouffer très rapidement ce premier foyer et donc d'avoir une opération coup de poing.
Et cela passe par une vaccination de masse, atteindre les 4 à 5 000 personnes d'ici la semaine prochaine, une campagne de dépistage aussi, ainsi que des préconisations pour la population.
Se laver très régulièrement les mains et boire de l'eau potable.
Sachant que l'accès à l'eau potable est problématique sur l'île.
C'est la raison pour laquelle on distribue des kits d'hygiène, du savon, des pastilles de chloration d'eau, de la distribution d'eau embouteillée.
Et une unité choléra vient également d'être mise en place au centre hospitalier de Mayotte avec une capacité de 14 lits. 40 de plus seront réquisitionnés si nécessaire.
Le roi Charles va reprendre ses activités publiques dès mardi. L'évolution de son cancer jugée encourageante ce soir par les médecins. Il a choisi mardi de se rendre dans un centre de lutte contre la maladie. Entre détente et mise en garde. La rencontre aujourd'hui entre le chef de la diplomatie américaine et le président chinois en Chine. C'est la deuxième visite d'Anthony Blinken dans le pays en moins d'un an. Xi Jinping appelle les États-Unis à être des partenaires, pas des rivaux, même si les sujets de tension entre les deux puissances sont nombreux. Nathanaël Charbonnier.
Russie, Taïwan, le trafic de fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis et qui provient essentiellement de Chine, mais on pourrait ajouter la lutte d'influence dans le Pacifique, les condamnations américaines sur le Tibet ou encore dernièrement la méfiance autour de la fameuse application TikTok soupçonnée d'être utilisée par Pékin pour espionner les téléphones américains. Bref, la liste de différends susceptibles de tendre les relations entre les deux géants est longue, et pourtant c'est avec des propos plutôt chaleureux que le président chinois a accueilli le secrétaire d'État américain. Il a déclaré que des progrès avaient été réalisés depuis sa rencontre avec Joe Biden, le président américain. Il a aussi expliqué que les deux pays devaient être des partenaires plutôt que des rivaux. Partenaire peut-être, mais Anthony Blinken a rappelé aux autorités chinoises les dossiers sur lesquels les Américains sont sensibles. Ils concernent l'aide chinoise à la Russie qui complique la situation en Ukraine pour les Occidentaux. Ils concernent aussi l'influence de la Chine en Iran et les conséquences que cela peut avoir sur le conflit au Proche-Orient. Ils concernent encore Taïwan avec le bras de fer que les deux pays ont sur l'île de 23 millions d'habitants revendiquée par Pékin.
En Ukraine, la mairie de Kiev évacue en urgence deux hôpitaux de la ville craignant des frappes russes. La Russie qui a déjà intensifié ses bombardements sur le réseau ferroviaire aujourd'hui pour paralyser les approvisionnements militaires. Et puis en bref, encore à Gaza, l'ONU estime à 37 millions de tonnes la masse des débris et gravats à déblayer le territoire soumis à un pilonnage intensif depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas. En France, ce sont les locaux historiques de Sciences Po à Paris qui sont occupés depuis ce matin par des étudiants pour défendre la cause palestinienne. La rue Saint-Guillaume, juste devant, occupée également. Le préfet veut la faire évacuer. Les forces de l'ordre sont sur place.
Il est 19h15 sur France Inter. Vous écoutez le journal d'Hélène Filet et vous avez bien raison. Le site de rencontre Coco, une nouvelle fois mis en cause.
Deux semaines après la mort de Philippe Kopmann à Grande-Synthe, victime d'un guet-apens après un échange sur ce site. Alors qu'un procès se tient en ce moment à Valenciennes, 11 hommes jugés pour avoir eu des relations parfois tarifées avec une adolescente de 14 ans, le premier contact noué sur ce même site. Et l'on apprend aujourd'hui que 4 hommes ont été arrêtés, placés en détention provisoire. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Pour 3 agressions et là encore, tout commence sur le site Coco.
Un rendez-vous donné sur le chat et finalement un guet-apens, carte bancaire dérobée, code obtenu par la violence, argent volé. 3 agressions sur 3 jours, c'était à la mi-mars. Après plus d'un mois d'enquête, donc 2 mineurs de 16 et 17 ans et 2 majeurs de 22 et 28 ans ont été interpellés cette semaine dans cette affaire qui, précise la procureure de Dunkerque, n'a pas de lien avec le meurtre de Philippe Kopmann. Le site de chat Coco est loin d'être inconnu des enquêtes et des procédures judiciaires. De nombreux guet-apens homophobes y sont organisés et des pédocriminels y sévissent, déplorent plusieurs associations. En 2018, un homme a été tué dans le Val-d'Oise après une rencontre initiée sur Coco et c'est aussi sur ce site qu'un mari a proposé pendant 10 ans à des hommes de venir violer son épouse qu'il droguait à son insu. Le procès se tient à la fin de l'année. Alors pourquoi Coco, créé en 2005, est toujours actif? Car le site n'est plus hébergé en France, mais à Guernesey, coco.gg, et appartient aujourd'hui à une société immatriculée en Bulgarie. Le propriétaire serait, selon nos confrères du Monde, un discret ingénieur installé dans le Var.
Delphine est venue. Le youtubeur d'extrême droite Papacito échappe à la prison avec sursis, mais écope d'une amende de 5000 euros, condamné pour injures homophobes et incitation à la violence contre un maire d'un petit village du sud-ouest à cause d'un conflit de voisinage. Il devra aussi verser 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des 3 associations de lutte contre l'homophobie qui s'étaient portées partie civile au procès. Prenez votre mal en patience dans l'Est. La circulation sur l'ensemble de la ligne à grande vitesse entre Paris, l'Est de la France et l'Allemagne est interrompue à cause d'une rupture de caténaire. C'est arrivé à midi et le problème n'est toujours pas réglé. Les trains sont obligés d'emprunter un itinéraire plus lent. Et comme promis, direction Bourges, c'est le choix culture de ce journal, le printemps de Bourges, jusqu'à dimanche, parce qu'à côté des têtes d'affiche, le festival met en valeur la poésie et les lectures musicales. C'était le cas cet après-midi avec Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos. Mathieu Culeron y était.
Sur Édimbourg, en ce 16 avril 1874.
C'est dans les combles du palais Jacques-Cœur que Mathias Malzieu est venu présenter finalement l'ensemble de son œuvre, des chansons bien sûr, mais aussi des passages de ses livres accompagnés par certains musiciens de son groupe Dionysos.
À chaque fois, voilà, on commence avec une histoire et une chanson, et ensuite on fait le petit tirage au sort, on va dans les gens avec des petits papiers, nous on a bossé plusieurs possibilités, selon ce qui tire, ben, admettons, il tire une sirène à Paris, et ben, je lis un bout du début du livre, et une chanson attenante, surprise à chaque fois. Donc ça fait les petits liens comme ça, mais on en a répété plein avec Mike hier chez moi, et on ne sait pas ce qu'on va jouer ce soir du coup.
Mathias Malzieu qui arrive en béquille pour ses lectures chantées, le chanteur de Dionysos qui s'est cassé la jambe sur le premier morceau, du premier concert de sa tournée et encore une fois, il en sortira plus fort.
Ça ne veut pas dire que je vais être dans le déni, que je vais jouer au héros. Oh moi, me casser la jambe, c'est pas grave du tout, il n'y a aucun souci, c'est tellement fun. Pas du tout, j'en ai bavé, et c'est pas encore tout à fait simple, loin de là. Mais en fait, il y avait vraiment une autre façon de faire. Enfin, tu crées autre chose.
Dans ce lieu majestueux qu'est le palais Jacques-Cœur, la création de Mathias Malzieu au printemps de Bourges prend tout son sens. Le chanteur de Dionysos aura embarqué tout le monde dans son univers onirique, facétieux et toujours bienveillant.
Le printemps de Bourges à vivre aussi en direct ce soir sur notre antenne à partir de 20h avec Laurent Goumard.
Ben voilà, ça sera après le téléphone sonne et après le flash de 20h. C'était le journal d'Hélène Fini. Merci beaucoup Hélène. Bon week-end. Des nouvelles du temps maintenant.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Beaucoup de pluie et d'averses sur l'ouest.
Oui, dès le matin, des averses vont se développer entre la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et l'Orléanais et des pluies vont s'installer sur les Cévennes. Progressivement, les conditions vont se dégrader encore un peu plus. Les pluies persisteront sur le relief du Languedoc et les averses vont devenir parfois fortes, orageuses en s'accompagnant de grêles. Prudence notamment entre le Limousin, la Gironde et le Poitou-Charentes demain après-midi. Sur le reste du pays, seules quelques averses pourront se faire remarquer malgré des nuages omniprésents. Les éclaircies se montreront plus franches près des frontières de l'Est, en Corse et sur le Finistère. Et puis les températures seront en hausse. L'après-midi, il fera 16 à 21 degrés en général, jusqu'à 23 degrés en Corse, mais 13 à 17 degrés sur le quart nord-ouest. Et puis à noter aussi beaucoup de vent en Occitanie et sur le Massif central, avec des pointes à plus de 100 km/h possibles vers le midi toulousain et en Auvergne.
Un petit mot pour dimanche ?
Eh bien, l'axe fortement pluvieux va se décaler vers l'Est pour s'étendre entre l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et la Lorraine, en donnant des pluies soutenues toujours sur les Cévennes, mais aussi entre l'Auvergne et la Bourgogne. Près des frontières de l'Est, la journée sera émaillée d'averses. Et puis sur une large moitié ouest, les averses seront plus localisées. Les éclaircies seront aussi plus nettes, notamment entre l'Aquitaine, la Bretagne et la Normandie. Mais c'est en Corse que le soleil sera le plus généreux, ce qui permettra au mercure de grimper jusqu'à 26 degrés à Ajaccio. Sur l'Hexagone, prévoyez 13 à 20 degrés du nord-ouest au sud-est pour dimanche après-midi.